franceinter.fr.
Adesso giuro che non hai paura, che sono una fregatura di mio amore mio. Perché un amore col silenziatore spara il cuore, pum, tu sei caduto giù. T'appartengo, Dio ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni, se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Prometto, prometti.
Mes filles, vous m'entendez?
Yes, we hear you.
Please, I need help.
Pose de conne.
Allez. Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
À Cannes, il se produit parfois des miracles, comme ce soir-là. Nous n'étions pas nombreux à l'avoir vu vraiment, mais nous étions fervents. Fervents devant cette apparition, ce film réalisé par une Italienne de 32 ans. Et en plus, ce film s'appelait Les Merveilles. Bonjour tout le monde, salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Dans une autre Italie, moins rieuse et moins clichée, une famille d'apiculteurs conduite par un père idéaliste tente de vivre en refusant les normes et la technologie comme une résistance au système. Parmi ses quatre filles, Gelsomina, l'héroïne de cette fable, entre ses responsabilités et ses rêves d'adolescente, incarnée notamment par une présentatrice de télé-réalité, c'est Monica Bellucci. Les Merveilles, deuxième film de l'Italienne Alice Rohrwacher, a finalement obtenu le grand prix sur la croisette, soutenu et encouragé par une autre femme, Jane Campion. Et pour évoquer ces merveilles, aujourd'hui deux invités, Alice Rohrwacher et Monica Bellucci. De plus en plus folle, les sorties de mercredi, ouais. 21 nouveaux films,
au secours.
Du grand n'importe quoi. Nous en évoquerons 10, et notamment cette perle du fantastique It Follows et ce grand doc indispensable, Le Prix à Payer. Enfin, un jeu pour conclure, un petit jeu pour gagner un grand film, Léviathan, du russe Andrei Zviagintsev, qui sort tout juste en DVD. Et pour ouvrir cette heure, la BO des merveilles, T'appartengo, interprétée par Ambra Angiolini, chanté et présenté par Alice Rohrwacher et Monica Bellucci.
Dai, vas-y.
Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore, me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera. Ça va, ça se fait.
Il y a une journaliste italienne qui m'a dit, qui avait votre âge à Cannes, et qui m'a dit, moi j'ai suivi cette fille à la télé. C'était,
ah oui.
C'était un modèle.
Ah, attends, mais elle était en feu, cette fille. Oui, cette jeune fille, elle a représenté l'amour de tous les teenagers pour des années.
Elle avait 14-15 années quand elle était conductrice.
Voilà, du coup, on a tous une référence qui vient de la télé et qui est un point de référence. Chacun, toi, les tiens, moi, les miens. Voilà.
Io mi ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati insieme, ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio. Perché un amore col silenziatore ti spara al cuore, pum, tu sei caduto giù. T'appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore, un amore eterno. Se non è amore me ne andrò all'inferno. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. Lo grido 100.000 volte a sera, ma disperata come una preghiera. Non voglio più svegliarti sola sola, se non ci sarai. Prometti, per sempre sarà. Di noi e a tutti gli altri poi non li diremo mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giura sopra il mio diario dove c'è la tua foto che è dedicata a me, che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più. T'appartengo, io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti. Ti giuro amore.
La BO donc des merveilles d'Alice Rohrwacher. Dans un village d'Ombrie, une famille d'apiculteurs tente de vivre autrement. Le père allemand, sa femme italienne et leurs quatre filles. Dans cette ferme délabrée se réalise peut-être un rêve post-libertaire écolo, un rêve qui demande des sacrifices. Et ce père autoritaire qui adore ses filles les prive à force de travail des plaisirs de la jeunesse. Et notamment notre héroïne Gelsomina qui devra composer entre l'amour paternel et les tentations de l'extérieur, et par exemple cette intrusion de la télé-réalité dans ce village, incarné donc par Monica Bellucci. Ce qui est beau, Laurent, ce n'est pas tant l'histoire, mais la façon de la raconter, impressionniste, sensuel, poétique et politique.
Oui, en introduction, on s'en cache pas, il nous arrive de pas aimer les mêmes films, oui. Vous et moi, Christine. Il nous arrive d'aimer les mêmes films. Et puis certains films, on les aime tellement qu'on vous casse les oreilles en vous disant « Allez-y, c'était le cas d'Attenberg, de Tabou, des combattants dernièrement, d'Incendie évidemment. » Et bien ça va faire pareil pour les combats, pour les merveilles d'Alice Rohrwacher, parce qu'on l'aime tellement qu'on a envie, vraiment envie, de vous donner l'envie d'y aller. On sait que c'est le principal moteur pour aller au cinéma. Et pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous comme moi, on retrouve ce qu'on adore dans le cinéma italien, dans le grand cinéma italien, notamment de Fellini, cette espèce de rencontre improbable entre du très très magique et du très très prosaïque. Mmh. C'est-à-dire ce qui nous fait rêver et ce qui nous ramène aussi à la réalité. Et ça, elle le fait, enfin, il me semble-t-il, extrêmement bien.
Et puis cette façon de filmer cette jeune fille, cet âge-là, son énergie, son éveil à la sensualité rappelle vraiment le cinéma de Jane Campion, qui lui a d'ailleurs donné le Grand Prix à Cannes.
C'est pas un hasard.
Et puis ce merveilleux qui se voit également tous les jours. Moi je me souviens d'une scène incroyable où Gelsomina boit le rayon de soleil à travers les fissures de la grange. Non, c'est vraiment... Et c'est vraies abeilles.
Puisque des abeilles.
Puisque la réalisatrice a un père allemand, une mère italienne, a vécu dans cette région. En transhumance avec ses parents, justement, apiculteurs.
Tout à fait, voilà.
On les a rencontrés à Paris, ces deux femmes, Alice Rohrwacher...
Nous avons bu leurs paroles.
Et Monica Bellucci, elle est au-delà d'être belle, elle est drôle et intelligente, et les voici toutes les deux.
Babbo.
Che c'è?
Partecipiamo.
A cosa?
Alla selezione, al Paese delle Meraviglie.
Ecco, ci manca questa stronzata.
Babbo, ma fidati, mamma.
La mamma pensa come me.
Io non so neanche di che state a parlare.
Niente.
Te lo dico io, mamma. È una trasmissione televisiva che tu praticamente vai lì sull'isola e se vieni selezionata dai primi, vai lì e presenti i tuoi prodotti. Guarda.
Bonjour, Monica. Bonjour, Alice.
Bonjour.
Bonjour.
Alice, vous comprenez bien le français, Alice?
Et j'espère que vous comprenez mon français. Moi, je comprends votre français.
Mais... D'ailleurs, c'est drôle, juste une parenthèse, dans le film, quand les parents ne veulent pas être compris par les enfants, ils parlent français.
Ah oui, c'est la langue secrète.
Oui. Pour raconter les merveilles, il y a beaucoup de possibilités pour raconter ce film. Il y a beaucoup d'entrées, comme on dit. On peut dire, c'est l'histoire d'une fille qui va devenir une femme. On peut dire c'est l'histoire de l'Italie actuelle des pauvres. Ça, on peut dire c'est un film sur l'environnement. On peut dire c'est un film sur l'utopie. Et pour vous, c'est tout ça ou c'est quoi ?
Et pour moi, c'est un conte de fables. Ouais. Et très matériel, mais quand même reste un conte de fables où il y a des choses qu'on ne peut pas trop expliquer, qui sont... des choses très anciennes. Il y a la caverne, il y a les lacs, il y a l'île, il y a la fata, comment on l'appelle, la fée. Il y a les enfants, il y a les rois de château. Mais un conte et fable très dur sur les présents.
Mais Monica, vous connaissez cette région-là, vous connaissez ces gens-là, qui ne sont pas beaucoup représentés au cinéma d'ailleurs.
Moi, je viens de l'Ombrie. Du coup, je connais cette réalité de la campagne, les côtés un peu isolés, les côtés un peu où on fait difficulté, on a la difficulté à s'intégrer. Je connais tout ça. Et en plus, l'Italie est faite des Provences. Là, c'est la représentation qu'elle a faite à Lecce. C'est une représentation très extrême. Mais quelque part, l'Italie est faite toutes des Provences. On n'a pas de grandes villes. Même Rome ou Milan, c'est des petites villes par rapport à Paris. Et c'est des grandes villes pour l'Italie. Les restes, c'est des petits villages où, d'un coup, il y a plein de villages en Italie où, à 25 ans, si t'es pas mariée, t'as pas un enfant, t'es une vieille fille encore aujourd'hui. Du coup, ça veut dire... On part d'une réalité que c'est une vraie réalité en Italie. Après, la réalité qu'elle a représentée à Lecce, c'est cette réalité rurale, des difficultés à s'intégrer dans la société. Et c'est pour ça qu'après, à côté de ça, elle a raconté la télé. Cette télé qui rentre dans la vie des Italiens, dans une manière tellement impétueuse, on dit ça. Et qui, d'un coup, prend une ampleur tellement importante. Et qui, d'un coup, cette jeune fille qui fait partie de cette famille rurale et qui veut échapper quelque part à cette famille qui la étouffe, à travers la télé, il a une manière de s'échapper et à travers les rêves qui représentent cette fée, qui c'est cette présentatrice télé qui s'appelle Milly Catena, et que c'est un peu une espèce de caricature, mais que tout le monde aime. Et il y a un moment magnifique où ces deux mondes se rencontrent, le monde de l'imaginaire et le monde rural. Et c'est ce moment magnifique, magique entre la jeune fille et la présentatrice télé, où d'un coup la présentatrice télé regarde les yeux innocents de cette jeune fille et elle sent comme si elle peut se dévoiler. Peut-être qu'il sait qu'elle est fatiguée aussi de cette structure qu'ils ont créée sur elle. Et la jeune fille, le moment où la présentatrice se dévoile, elle montre qu'elle est une femme comme les autres, elle sort de l'illusion. Et sortir de l'illusion, c'est toujours très douloureux.
Est-ce que ce n'est pas Berlusconi qui a tout cassé avec cette télé-réalité, avec la Cinque et toutes ces présentatrices idiotes, etc. Est-ce qu'il n'a pas beaucoup... Il a un peu cassé tout ça, non?
Alors là, c'est sûr que ce n'est pas seulement lui. C'est-à-dire, s'il est à lui, il doit avoir beaucoup de gens derrière aussi. Et c'est très simple de dire seulement un homme. C'est sûr que il a eu un génocide culturel très, comment dire, très pensé.
C'est fort comme expression.
Oui. Qu'est-ce qu'on a eu en Italie? C'est le génocide culturel opéré par la télé, qui fait que maintenant, c'est très difficile de... que les gens ont perdu un peu d'habitude à regarder les images, à voir le silence. Ils ont vraiment perdu les connexions avec beaucoup de choses qui étaient parties de la communauté. Et ça, c'est vrai. Nous, on a cherché de faire une autre chose, que c'était de raconter pas cette télé, mais une télé préhistorique, on peut dire, de l'âge de la pierre préhistorique. Parce que c'est une télé dans la caverne, c'est vraiment la télé mythologique. Et parce que les problèmes de la télé, c'est pas seulement sa histoire, que c'est une histoire qu'on connaît horrible, surtout dans mon pays, mais c'est les problèmes qu'elle est obligée, la pauvre télé, de synthétiser dans une minute une vie et de dire immédiatement c'est vrai, c'est pas vrai, la télé-réalité, non, il faut synthétiser. Et on a cherché de faire un film où on connaît une famille, un homme et une famille, un travail, et dans une manière que quand on les voit devant la télé, et ils ne sont pas capables de se synthétiser, on comprend qu'il y a des choses qu'on voit dans la télé qui ne sont pas vraies, parce que ce n'est pas possible de tout synthétiser.
Parce que il y a un génocide culturel et lui il vient dire à la télé qu'il y a un génocide aussi des abeilles, qui est un génocide naturel à côté. Donc le culturel plus le naturel, c'est une bombe. Donc vous êtes en train de décrire, vous êtes en train de dire que cette famille, elle porte une vérité qui est de dire le monde court à sa perte. Il y a un génocide culturel, un génocide naturel.
Oui, derrière cette...
Oui. Quand il dit ces phrases... Et tout de suite, la magnifique Milly Catena, elle reprend des mots de lui qui ont une intention complètement différente il dit, c'est pas possible de tout acheter. Et elle le dit dans une manière comme si c'est un hymne joyeux. C'est pas possible de tout acheter, c'est vrai. Et on voit comment c'est possible de prendre des mots et de les transfigurer tous les temps.
Monica, Alice, elle est... moi j'aime bien parce qu'on a découvert une nouvelle metteuse en scène, elle a confiance dans ses images, ça se voit. Comment c'est de tourner avec elle ?
Oh, Alice, elle te laisse la liberté de trouver ton personnage et au même temps, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et du coup, cette espèce de mixte, ça crée après ce que ça crée. Et à l'écran, c'est une petite magie qui s'est fait.
Vous vous êtes amusée ?
Beaucoup. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Ça a été un vrai moment pour moi. Vraiment, j'ai pris un grand plaisir. Et par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à notre gouvernement, par rapport à ci, par rapport à ça, je me dis toujours que Agatha Christie a dit un truc très important, qu'un peuple des chèvres crée des loups au gouvernement. Du coup, ça veut dire que nous aussi, on a la responsabilité des jugements. On est dans des démocraties. Et on peut, comme on dit, avoir la liberté de mettre ce qui on veut. Et du coup, je crois qu'un peuple aussi, il a la responsabilité de ce qui lui arrive des fois.
Je pensais aussi à l'énergie de cette fille. Parce que moi, j'ai vu quand même dans ce film une relation entre un père et une fille qui est vachement touchant, quoi. C'est-à-dire que moi, le regard de la fin, je le vois comme un père qui regarde sa fille qui est devenue une femme. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Oui, oui, c'est une histoire d'amour d'un père pour une fille. Et il faut dire, ça c'est peut-être un peu drôle aussi, que c'est un peu un tabou. Oui. Quand j'allais chercher l'argent, et j'ai présenté le film comme ça. C'est l'histoire d'amour d'un père pour une fille qui, dans les moments, qui, il comprend que sa fille, c'est autre chose de lui. Oui. Il est jaloux, il fait plein de choses. Et tout le monde dit, ah, l'amour père, on ne peut pas parler de ça. Mais ça veut dire rien de mal. C'est vrai, on aime notre enfant, notre fils, comment on dit, amiamo i nostri figli, no? Et lui, même si toutes les choses qu'il fait sont sbagliate, comment on dit,
erronées,
il est un homme juste, je pense.
Fumo di Asmina. Che c'è?
C'è un buco nella maschera. Dopo la più pizzicano.
Va bene, fai in macchina, Marinella, e non rompe.
Poverina, la pizzicano. Non è vero che c'è un buco nella maschera.
Oh, dai. Se sta meglio da sole, no? E fumo.
On a oublié un personnage super important, c'est les abeilles. Oui. Elles vont sauver le monde. Elles sont très importantes, les abeilles.
Ah, oui. Ils ont seulement un problème, qu'ils ne sont pas du tout intéressés aux êtres humains. Ah oui.
Ah oui.
Oui. Ça, l'abeille, elle n'a aucun intérêt à nous. Alors, c'est un animal très, très important pour moi parce que. Et on voit, quand on travaille avec les abeilles, on découvre un monde merveilleux. C'est comment la femme plus belle au monde. Mais cette femme, même, ne te regarde pas. C'est-à-dire, normalement, on travaille avec des animaux qui ont pu établir une relation. Les chèvres, les moutons, ce sont des animaux qui ont pu, comment dire, donner une caresse, tu sais, ou même être dur avec eux, mais on peut communiquer. Avec l'abeille, on ne communique pas. L'abeille fait ce qu'elle veut. Et l'apiculteur, c'est quelqu'un qui cherche toujours de la séduire. Mais peut-être elle va sauver le monde, mais pas pour nous.
Et en même temps, l'héroïne principale, elle arrive à domestiquer une abeille puisqu'elle arrive à la faire sortir de, oui. de sa bouche. Il y a quand même eu, chez elle quelque chose de très fort par rapport à ça.
Oui, oui. Elle parle avec... Elle parle les abeilles, comment dire, à travers les abeilles. Et il a des choses qu'elle ne peut pas dire et sont des abeilles.
Qui parlent pour elle.
Oui, je pense.
Monica, elle est incroyable, cette jeune actrice, hein, qui a jamais, elle a jamais fait de cinéma avant.
Merveilleuse. Mais c'est pour ça que moi, je dis toujours, dans mon métier, que nous, les acteurs, il faut qu'on est très humbles, parce qu'on fait un métier que même des enfants peuvent faire mieux que nous. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Mais je pense aussi que les enfants font ce métier, comme tu dis, mieux, mais parce qu'ils sont dans une situation... où il y a aussi les acteurs, et où il y a toi, où il y a... C'est-à-dire, la chose qui c'est important, c'est de mélanger. C'est que l'acteur voit l'enfant et que l'enfant voit l'acteur. Parce que je ne sais pas comment est-ce que ça peut être...
Enfin... Ah, disons qu'un acteur, pour être bien, il faut qu'il maintienne toujours la fraîcheur de l'enfant.
Oui, et l'enfant, il faut qu'il voit la concentration de l'acteur aussi, à côté.
Voilà, mais pas c'est vrai. Non, mais les enfants, ils arrivent à se concentrer tout naturellement. Alors que tu penses qu'un enfant, il ne peut pas être astronaute, il ne peut pas être médecin, il ne peut pas être avocat, mais il peut être acteur. Du coup, ça te remet la pendule à l'air.
Madame la Présidente, who has obtained le Grand Prix?
Grand prize goes
le Grand Prix
to the
est Alice attribué Rohrbacher. À Les Merveilles de Alice Rohrbacher.
Monica, comment vous avez vécu ce Cannes justement et cette projection? Ça s'est passé comment?
C'était magnifique. Ça avait plein de monde. Il y a eu une belle reconnaissance. Et puis voilà, cette reconnaissance qu'il a eue, ce prix très important.
Très important, le deuxième après la Palme.
Voilà, Grand Prix du jury pour madame. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment mérité et que ça, que la fraîcheur et l'enthousiasme de cette jeune réalisatrice. Voilà, soit reconnue par un jury où il y avait beaucoup de femmes en plus. Du coup, c'était beau ça.
Mais vous n'étiez pas là quand au palmarès?
Bien sûr, je donnais les prix. J'étais là pour donner le prix meilleur acteur. Et du
oui,
coup.
Ça,
et donc, vous l'avez appris sur le moment.
Mais ça veut dire que moi, j'arrive à Cannes pour donner le prix meilleur acteur. Et les matins, à Litch, elle m'appelle, elle me dit j'arrive. Et moi, je dis t'arrives.
Ah oui.
Et non, elle me dit je viens, on a reçu quelque chose. Je dis Mike, c'est merveilleux, je te vois ce soir. Et après, c'était drôle parce que ça passait, les prix passaient un peu. Je dis mais quel prix tu vas prendre? Ça n'arrive jamais ton prix, tu vas prendre quoi?
Oublié.
Et après, c'était... Voilà, du coup, c'était vraiment... Non?
Oui, avait c'était une grande émotion. C'est toutes les paroles que je cherche depuis tous ces mois pour exprimer qu'est-ce que je sens, c'est très peu. Et parce que c'était une joie incroyable. Oui, une... Vraiment, comment... Je ne sais pas vraiment comment expliquer. Mais les facts même de cette jury-là, d'être reconnu par eux, c'était une force, une énergie très grande.
Elle vous a parlé, Jane Campion, du film, après, elle vous en a parlé?
Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? J'ai demandé si elle était folle ou quoi. Et elle a dit non. Je sais bien qu'est-ce que j'ai fait.
Elle représente... Quoi pour vous? C'est un modèle ou c'est juste une autre réalisatrice? C'est quoi pour vous?
Non, c'est un mythe. Oui, j'étais tellement émue que je ne suis pas arrivée même pas à parler. Mais voilà. Et, non, je pense qu'elle est un mythe, mais même parce qu'elle est arrivée à faire des choses qui sont soit très sophistiquées, soit populaires. Mm. Et ça, je l'aime parce que les choses, il a un préjudice, comment on dit, un préjugement vers les populaires énorme de tous les intellectuels. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, soit avec la musique, soit avec les films, de faire quelque chose qui est bien, beau, bien fait, sophistiqué, énorme, touchant, mais aussi populaire, c'est quelque chose d'énorme. Moi, qui je viens d'une région agricole, que tu sais, on n'a pas les cinémas, on a quand même, on a vu ces films à elle. C'était et alors ça veut dire que on les voyait même là. Alors c'est énorme, non? Qu'est-ce que c'était l'unique cinéma bien qui arrivait tellement loin.
Monica, vous êtes confiante dans l'avenir du cinéma italien parce qu'on a dit qu'il était mort à un moment, il renaît un peu.
Comme ça, on a fait des morts, des résurrections. Même Rome était brûlée, après il l'aurait fait.
On a spécialisé dans la mort et résurrection.
Si, parce qu'on dit toujours demain c'est notre jour. Du coup, on dit toujours qu'on arrive à se ressourcer quelque part. C'est notre survie qu'on a en Italie. On a eu une époque magnifique que tout le monde connaît. Après, on a eu des moments très très durs dans les années 80. Et c'est vrai, aujourd'hui, on a des metteurs en scène de talent, quand on pense à Garrone, Sorrentino et toutes ces renaissances avec Alice et des jeunes metteurs en scène italiens, même des femmes italiennes qui ont du talent.
Asi Argento,
voilà. Et voilà, Maria Soletognazzi, et voilà. Et du coup, il y a des jeunes metteurs en scène italiennes, femmes, qui peuvent recréer une renaissance du cinéma italien. C'est bien de parler. C'est nouveau pour les femmes en Italie d'avoir une place qui revient. Mais après, on dit toujours la vérité, que c'est qu'en France, on fait des 150 films par an. En Italie, on fait 50 films par an, donc peut-être.
La distribution des 15.
Voilà, et que 30 sortent et 20 non, et sur 30 films, après c'est compliqué, je veux dire, les talents, il est là, l'envie aussi, mais il faut aussi de l'argent pour faire des films, et ça c'est plus compliqué à trouver.
Merci. Et adesso cambiamo personaggio e passiamo alla famiglia apicultori. Questo signore particolare che viene da lontano, con la sua famiglia e i suoi figli, produce un miele di tutta bontà. Ci può forse spiegare come funziona? Parli ai telespettatori.
Sì. Quando lavoriamo questo miele, è totalmente... Il mondo sta per finire.
E noi... Esatto. Ci sono cose che non si possono comprare.
Nous aimons ce film, il s'appelle Les Merveilles d'Alice Rohrwacher et il sort mercredi prochain. Avant de parler des sorties, Christine and the Queen et ce titre Christine, mais c'est pas moi qui l'ai choisi.
Ah bon?
Dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir et une creepy.
puis son gant étendard qui fait
je fais tout mon mico au mercure au chrome.
Laurent, avant d'évoquer les sorties, les trois films qui ont marché ce mercredi, alors meilleur score.
Je vous les donne en premier, Papa ou Maman. Mais oui, comédie française. En seconde place, Jupiter, grosse production américaine. Et en troisième place, autre grosse production américaine, La Nuit au Musée.
Le prix à payer, d'Harold Crooks, canadien. L'évasion fiscale pratiquée à grande échelle par les multinationales, enquête de la City de Londres aux îles Caïmans et Jersey, un sujet complexe, Laurent, traité comme un thriller et fort bien expliqué.
Oui, alors il faut dire d'entrée de jeu que la forme de ce documentaire, écoutez-moi bien, est aussi évanescente, vaporeuse et dématérialisée que les sociétés financières, économiques, industrielles dont il est question. C'est-à-dire, en deux mots, juste, il faut bien avouer que c'est pas du grand documentaire d'une façon formelle, c'est pas du cinéma, c'est d'abord du reportage, de l'enquête, du témoignage, et ça, évidemment, ben c'est le sujet qui prime. Tant pis si on n'a pas en soi, en face de soi, en tant que spectateur, un grand film documentaire. On a en revanche une enquête qui nous dit des choses absolument terribles, désastreuses sur la façon dont effectivement certaines grandes sociétés internationales se fichent éperdument, notamment des impôts, c'est-à-dire se fichent éperdument de nous. Alors la seule vraie question au fond qu'on se pose en disant vraiment qu'il faut aller voir Le Prix à payer impérativement, mais que font dans ce pays les chaînes de télévision publiques pour ne pas diffuser à l'heure de grande écoute, c'est-à-dire en prime time, ce genre de sujet. Il faut dire aux gens, allez en salle, allez acheter une place pour voir ça, pour voir cette dénonciation. C'est dommage parce qu'on pourrait se dire, à la télévision, ça ferait une audience maximale et le poids n'en serait que plus important.
5 salles à Paris, 15 en dehors, Avignon, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Caen, Nancy et d'autres à suivre. Papa ou Maman de Martin Bourboulon, quand on m'a raconté le pitch il y a quelques temps, je me suis dit, ça c'est un bon sujet. Un couple va divorcer et refuse chacun de leur côté la garde des enfants. Enfin un propos politiquement incorrect, d'autant que les enfants en question ne sont pas vraiment des cadeaux, l'aîné ado lymphatique, la deuxième collée à son smartphone toute la journée, mais bon, l'enjeu c'est surtout pour le papa Laurent Lafitte et la maman Marina Foïs, de profiter enfin de cette promotion dont ils ont rêvé, ces postes à l'étranger. Alors, oui, ils vont tout entreprendre pour se faire détester par leur progéniture dans une surenchère de stratégies de plus en plus trash, et notamment un épisode hamster assez drôle. Le film est là, les acteurs sont excellents, malheureusement rattrapés par une pseudo-comédie romantique. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Si vous cherchez en ce moment, et de ce point de vue, là, un film catharsis, allez plutôt voir Les Nouveaux Sauvages. Oui, là, le scénario et le rire très noir ne s'encombrent pas de pincettes. Les Nouveaux Sauvages, excès, gravité, méchant et vraiment très, très drôle. Voilà, c'est dit.
C'est dit.
Jupiter, le destin de l'univers de Andy et Lana Wachowski.
Oui.
Deux ans après Cloud Atlas, presque impossible à pitcher, Laurent, sauf à citer Libé, notre planète n'est plus qu'un champ d'ADN humain à moissonner afin de régénérer les cellules d'une élite gouvernante capable de survivre 91 000 ans sans rider. Par parenthèse, je vous recommande cette critique signée Clément Guis et Didier Perron. Et vous, Laurent ?
Ben écoutez, la famille Wachowski, on va dire, adore, vous le savez, mélanger les grands bazars visuels avec des petites supérette de la philo à deux balles. Ça continue avec ce film, parce que, évidemment, ce film a 150 millions d'euros, hein, il faut quand même le dire, il y a un bel investissement. Ce film en 3D, où la 3D, une fois de plus, ne sert à rien, mais tant pis.
Merveilleux en côté de 2,7 millions.
Oui, voilà, chercher l'erreur. Hein. Alors, donc, c'est un tiers de politique, un tiers de sociologie des élites, effectivement, Libération à raison, un tiers de combat intergalactique puissant, et puis un tiers, parce qu'on est chez Marcel Pagnol, un tiers de personnages sans aucun intérêt, dessinés à la hache et avec une psychologie là aussi de bazar. Alors, on en sort légèrement abruti à force d'images fortes et d'images flash, un peu comme après un jeu vidéo, les yeux vraiment très très gonflés. On se dit qu'après tout, la vie quotidienne, en dehors de cette salle où une bruissante de bruit et de fureur, c'est peut-être un peu mieux. Voilà.
Ça s'appelle Jupiter, le destin de l'univers des Wachowski. It Follows de David Robert Mitchell. La scène d'ouverture de ce film est l'une des plus intrigantes qu'il m'a été donné de voir. voir. Intrigante, terrifiante, fascinante. Une jeune fille sort paniquée d'une maison en culotte et nuisette dans une rue déserte d'une banlieue américaine. Elle semble fuir quelque chose ou quelqu'un invisible à nos yeux. Son père l'appelle depuis le perron. Elle revient dans la maison, ressort tout aussi terrifiée, prend sa voiture, roule jusqu'à cette plage où elle aura le temps de donner un dernier coup de fil. À couper le souffle, cette intro est très forte, cette relecture du genre, on va dire fantastique, loin des friandises faussement terrifiantes pour ados. It follows, le hit du titre, c'est cette chose, cette présence qui vous suivra partout où vous irez, et ce mal se transmet en faisant l'amour, le sexuellement transmissible, cette première fois pour ces adolescents du film. Vous voyez un peu l'idée, la contamination et la possession. En quoi It Follows marque une date dans le genre et se démarque des autres films pour plusieurs choses. D'abord, son ton mélancolique, pas du tout habituel quand il s'agit d'ados, pas du tout hystérique. Sa mise en scène d'une grande élégance, fluidité, ses cadrages, sa texture d'image, l'ambiance, le travail sonore extrêmement soigné. Et ce mélange entre le rêve et la réalité, la terrible réalité de ces banlieues américaines désertées, nous sommes à Détroit, ces maisons abandonnées après chômage et surendettement, le tout dans un climat très flippant, c'est une réussite, ça s'appelle It Follows. Les jours venus, nouveau film de Romain Goupil, le jour où vos enfants regardent votre passé comme si vous aviez fait Verdun, le jour venu où une lettre administrative interroge votre âge et votre statut et vous pousse vers la retraite, le jour venu où vous commencez toutes vos phrases par avant. Goupil se raconte...
Eh oui, alors c'est Romain et les femmes, Romain et sa banquière, Romain et ses enfants, Romain et ses potes, et Romain et ses parents, et même Romain et son enterrement. Bah oui, mais oui, il faut bien le dire. Il est sympa, hein, Romain, qui fait partie de la race des signeurs, comme on dit, hein, cette race qui s'est pas mal trompée, en même temps, qui erre un peu dans ses souvenirs 68 tard. Alors, au jeu de l'ego, Romain est aussi fort...
Mais il le reconnaît, ça.
Que oui, aussi fort que ses petits camarades, BHL, Cohn-Bendit, Glucksmann, qui sont évidemment, pour certains d'entre eux, à l'enterrement. Alors... Le pire, je dirais, c'est qu'il y a dans cet autoportrait, dans ce jeu de l'ego, je le répète, une vraie autodérision, assumée. Mais on se dit que, au-delà de cette autodérision, il y a une infinie tendresse, parce que Romain Goupil est comme ça, et on se dit qu'il faudrait qu'il enlève cette carapace du faux rire sur lui-même, pour nous entraîner peut-être un peu plus vers une véritable introspection qui gagnerait, certes, en gravité, alors on rigolerait un peu moins de blagues un peu faciles et un peu potaches, et on gagnerait peut-être dans cette humanité vers laquelle Romain Goupil a envie d'être, et nous aussi d'ailleurs.
Félix Emera, du Canadien Maxime Giroux, une histoire d'amour entre une jeune femme mariée juive assidique et un juif non pratiquant. Ils vont se croiser, ou plutôt croiser leur solitude dans une rue de Montréal. Ils sont simples, le film est simple, honorable et sobre, mais un peu mou peut-être.
Oh oui, on finit par s'ennuyer vraiment devant bluette avec une musique, enfin des choix musicaux qui remplacent l'émotion. Ça, c'est absolument facile à faire. On choisit une belle BO et vas-y, qu'on te fourgue de l'émotion avec. Allez, passons.
Allez, Kertu, une drôle de rencontre sur une petite île estonienne. Le film est signé Ilmar Harag, estonien lui-même. Une rencontre entre une simple d'esprit et un adulte alcoolique et cancéreux. Ouh là là, c'est pas trop mélo ça ?
Eh ben si, c'est du mélo, mais c'est du mélo assumé. Alors c'est du mélo qui vient d'un réalisateur qui personnellement m'a fait un peu fuir la fois précédente, c'est Ilmar Harag, avec une estonienne à Paris qui mettait en vedette cette actrice que vous adorez, Jeanne Moreau, Christine. C'était un film abominable et je me suis dit, si c'est à nouveau ça, ça va être dur à voir. Eh bien, pas du tout, parce que ce mélo assumé, c'est d'abord aussi une belle histoire de rébellion contre un petit village qui va évidemment, et une île surtout, le côté insulaire est pas à négliger, loin de là. Et bien entendu, ces Iliens, c'est les habitants de l'île, ses parents vont tous se lier contre ce couple contre nature, cette jeune fille un peu simplette, ce vieux Don Juan alcoolique avec laquelle il a une véritable passion amoureuse qui marche. C'est beau à regarder, c'est beau à voir, mais seulement ça ne plaît pas aux bien-pensants. Et c'est incarné par une actrice dont il faut citer le nom parce qu'elle s'appelle Ursula Ratasep, qui est extraordinaire, qui fait passer son personnage effectivement de la petite simplette à la grande amoureuse avec une extrême virtuosité. Ça s'appelle Kertu, c'est certainement une des bonnes surprises de la semaine.
Amour fou de l'Autriche Jessica Hausner. Ce film, ce serait un peu comme une parodie d'un Romère. Tiens, au hasard, La Marquise d'O, oui. Adapté lui aussi d'Heinrich von Kleist. Van Kleist, pardon. Van Kleist, oui. Même carcan classique, oui. Figé, on va dire mieux filmé que chez Romère. Ici, chaque plan est un tableau, elle s'est inspirée de Vermeer. On se croirait dans une expo sur le romantisme allemand qui met en scène ce jeune poète qui n'a qu'une seule obsession, se suicider. Je vous le raconte aussi sec qu'il est présenté. Mais il se suicide pas tout seul, il tente d'abord de convaincre sa cousine qui refuse et se tourne finalement vers Henriette, une jeune femme mariée. À la différence de Romère qui prenait son sujet au sérieux, Hausner s'en moque, un bouffon, ce jeune poète, qu'elle ridiculise en même temps que lui, le romantisme allemand. Alors pourquoi faire un film ? Je trouve que l'entreprise paraît bien vaine.
Je partage entièrement cette interrogation. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Hausner ? Moi, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait nous dire, c'est dommage. Amour fou, ça s'appelle.
Ouais, Franck Delaney Abrahamson. Sur l'affiche, on peut lire une ambiance à la Gondry. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vendre un film ? Ça s'appelle Franck, mais c'est plutôt John, le héros, ce jeune musicien irlandais qui rêve de devenir célèbre. Très joli début d'ailleurs, où il s'inspire des passants qu'il croise pour écrire ses paroles. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à sa rencontre avec ce groupe de pop avant-gardiste dont le leader Franck a le visage complètement dissimulé dans une grande tête en papier mâché qu'il ne quitte jamais. John va devenir leur clavier et suivre le groupe en tournée, mais surtout en répétition dans la campagne. Où est le sujet ? Partout, nulle part. Délayé dans l'ennui et les scènes répétitives, ce fameux sujet de trouble identitaire lié à la création, survolé au profit d'une mise en scène faussement paresseuse et assez poseuse. Franck, sous la grosse tête, c'est Michael Fassbender. Quel dommage de s'en priver quand même.
Mais oui, si c'est du Gondry, c'est du Gondry qui aurait oublié de prendre son Guronzan du matin.
Kadish pour un ami, on va terminer avec ça. C'est signé Léo Kachin, ouais. Un ado palestinien à Berlin, et son voisin de palier, un vieux juif émigré russe.
Ouais, alors il est palestinien, lui et l'autre est juif, il est jeune, il est vieux, mais ils vivent ensemble dans le même immeuble. Alors évidemment, tout les sépare et seule la magie du cinéma et la bonne volonté, on va dire, du scénariste-réalisateur qui est indéniable permet effectivement à cette histoire d'exister. On a envie évidemment que ça se passe mieux entre eux. C'est ce qui arrive dans le film, il faut le dire. Tout ça repose sur très très peu de choses et principalement sur la grâce des deux acteurs principaux. On n'a pas envie d'être méchant avec ce film plein de bonnes intentions.
Et enfin, et ce fut aussi un sacré choc à Cannes, ce Léviathan signé russe Andrei Zviagintsev. Cet injuste combat d'un homme contre la puissance étatique, une satire politique pour dénoncer l'injustice et la corruption.
Что, мужики, помощь нужна?
Власть, Коля, надо знать в лицо.
И чего тебе надо, власть?
Вот это все.
Забирай. Поместится в катафалк твой.
Alors, ce Léviathan vient de sortir en DVD chez Pyramide et nous allons vous le faire gagner. Il suffit de répondre à cette question. Je serais très mauvaise présentatrice de jeu.
Non, pas du tout. Combien
de fois le cinéaste russe Andrei Zviagintsev a été présent à Cannes ? Combien de fois le cinéaste russe Zviagintsev a été présent à Cannes ?
C'est clair.
Une réponse, un chiffre. Et les 15 premiers gagneront ce DVD. Le film est dans ses suppléments un grand entretien avec le cinéaste. Voilà. On voulait
pour ça,
terminer
vous
avec...
Vous écrivez, vous donnez votre réponse, votre coordonnées les plus complètes, les plus complètes possibles. On aura tout vu, @radiofrance.com. Je répète, on aura tout vu,
tout
attaché, minuscule, @radiofrance.com. On vous redit tout ça sur le site de l'émission, bien évidemment, franceinter.fr.
Un rattrapage par rapport à la semaine dernière, des références de deux livres dont on a parlé, pardon à l'auteur de ce livre,
auteurs,
Fashion et Cinéma.
Qui est Véronique Lebris, notre consoeur Véronique Lebris, qui a publié cet ouvrage aux éditions des Cahiers du Cinéma, qu'elle en soit ici remerciée.
Ouais.
Et puis également l'ouvrage sur Terrence Malick et l'Amérique était signé d'Alexandre Matisse chez Playlist Society. Voilà.
Demain dimanche, eh bien, sera remis le prix Masque et la plume.
C'est vrai.
On attend avec impatience. On peut rejoindre notre groupe Facebook, on aura tout vu, tandis qu'on le retrouve sur le site avec toutes les infos.
Franceinter.fr, l'émission, on aura tout vu, bien entendu.
Le festival de Berlin, la Berlinale, a démarré ce mercredi jusqu'à samedi prochain.
Vous
avec
partez,
la remise de l'Ours d'Or par un jury présidé par Darren Aronofsky. La Berlinale sur notre affiche la semaine prochaine. Générique avec l'accent italien, Alice Rohrwacher et Monica Bellucci. Si.
inspiré par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisatrices et des actrices.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Perret.
Marie-Louise Beau s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anna Weinfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Alice Roavacher, j'étais.
Et moi, Monica Bellucci, j'étais.